VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 14 octobre 2022. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition.
Aujourd'hui, on a encore de nouvelles assises avec le même groupe de MPSR.
L'analyste burkinabé Pass Yen, que nous retrouverons dans la partie magazine de cette édition. Au Tchad, plusieurs ex-chefs rebelles font leur entrée dans le nouveau gouvernement de transition. Ici aux États-Unis, la commission d'enquête du 6 janvier a cité l'ancien président Donald Trump à comparaître. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait ralentir en 2022 selon le FMI. Et les sports, deux nouvelles athlètes kenyanes ont été suspendues pour dopage. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Coup d'envoi des assises nationales ce vendredi au Burkina Faso. Le leader militaire Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition jusqu'aux élections de juillet 2024, ont indiqué des sources au sein de la junte au pouvoir. Les précisions de Félicien Passis Zimbrou.
Le capitaine Traoré a été désigné à l'unanimité des participants président de la transition, ont confirmé deux sources au sein de la junte que cite l'AFP. Des voix s'étaient élevées pour réclamer son maintien à la tête du pays lors de meetings de soutien à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Lors de la cérémonie d'ouverture des assises, membre de la junte, le capitaine Marcel Méda a lu un message du capitaine Ibrahim Traoré absent à la cérémonie d'ouverture. « Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de nos diversités pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle pleine d'espoir », a-t-il dit. Ajoutant qu'il fallait donner des orientations claires pour la construction d'une nation forte et résiliente, une nation capable d'instaurer la paix, la sécurité et le développement durable. Un projet de charte de la transition devant être adopté par les assises prévoit que le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle prévue en juillet 2024. Le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition, précise ce projet.
Un nouveau gouvernement comprenant d'anciens chefs rebelles a été nommé aujourd'hui par décret au Tchad, deux semaines après qu'un dialogue national de réconciliation a prolongé la transition vers des élections pour deux ans et maintenu Mahamat Idriss Déby Itno à la tête de l'État. Le nouveau gouvernement tchadien dirigé par Saleh Kebzabo est composé de 44 ministres et secrétaires d'État. Tom Erdimi, 67 ans, cofondateur avec son frère jumeau, Timan Erdimi, de l'Union des Forces de Résistance, l'un des trois principaux groupes rebelles tchadiens, a été élevé au rang de ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mahamat Asilek Alata, vice-président de l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement, a été nommé ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Sept ministères régaliens, les Finances, la Sécurité publique, la Défense, les Affaires étrangères, la Communication, l'Administration du Territoire et l'Éducation nationale reste aux mains d'un ministre issu du Mouvement patriotique du salut, MPS, le parti historique de l'ancien président Idriss Déby. Dans le nord-ouest du Nigeria, les autorités de l'État de Zamfara ont imposé cette semaine un confinement parmi d'autres restrictions visant à enrayer les récentes attaques de bandes criminelles après l'échec d'un accord de paix. Ces nouvelles restrictions à Zamfara, annoncées dans un communiqué jeudi, illustrent la complexité des défis sécuritaires auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique à 4 mois de l'élection présidentielle. Toujours au Nigeria, les enseignants d'université ont annoncé ce vendredi la fin de leur grève qui a duré 8 mois malgré le fait que leurs revendications n'ont pas été satisfaites. Mouhamadou Mfa.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, le syndicat des professeurs d'université déclare avoir mis fin à la grève conformément à une décision de justice enjoignant les enseignants à reprendre immédiatement leurs activités, une décision saluée par les étudiants et les parents. Les revendications n'ont pas encore été traitées de manière satisfaisante, précise toutefois le communiqué. Le principal syndicat du personnel des universités fédérales du Nigeria avait déclenché la grève le 14 février. Comme lors des précédentes grèves, les professeurs d'université réclamaient l'augmentation des salaires, des financements et l'amélioration des équipements. Les universités privées et celles gérées au niveau régional n'ont pas été affectées par la grève. En septembre, un tribunal avait ordonné aux enseignants grévistes de reprendre le travail après plusieurs séries de pourparlers avec le gouvernement qui n'avaient pas permis de résoudre le conflit. Le syndicat s'était opposé à cette décision, mais son appel a été rejeté la semaine dernière.
Les autorités guinéennes ont autorisé la reprise de la coupe du bois après plus d'un an d'interdiction motivée par les abattages sauvages dans un pays à la riche biodiversité attaqué par une déforestation massive. L'exploitation du bois sera réservée à l'usage local et encadré et l'exportation est interdite, a dit le Conseil des ministres dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités ougandaises ont affirmé cette semaine que l'épidémie d'Ebola, qui a fait 19 morts dans le pays, n'avait pas atteint Kampala, malgré les tests positifs au virus d'un couple dans la capitale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recensé 54 cas positifs de cette fièvre hémorragique en Ouganda depuis la déclaration d'épidémie par les autorités le 20 septembre dans le district de Mubende, à environ 150 km à l'ouest de la capitale. Un seul cas mortel a été enregistré à Kampala, un homme de 45 ans qui avait fui Mubende après la mort d'un parent et avait demandé l'aide d'un sorcier avant de se rendre dans la capitale où il est décédé. Un haut commissariat qui représente les principales diasporas africaines de France a été présenté ce vendredi en banlieue parisienne avec l'objectif de faire bouger les choses sur le plan politique, notamment en matière de lutte contre les discriminations et de resserrement des liens avec l'Afrique. Le point avec Rosine Monizero.
La diaspora africaine de France est la première organisation qui fédère toutes les diasporas les plus représentées pour passer à l'action sur le sujet du vivre ensemble, a expliqué sa présidente Rachida Kaout lors d'une conférence de presse. Cette structure entend s'appuyer sur ce que le gouvernement français a mis en place, multipliant les références à la volonté de rapprochement initiée par le président français Emmanuel Macron avec l'Afrique. Le premier chantier du Haut Commissariat sera de pousser pour l'ouverture du droit de vote aux étrangers lors des prochaines élections municipales en 2026. Ce droit de vote, déjà offert aux Européens pour les municipales, fait l'objet d'une forte demande et suscite un sentiment de discrimination, d'autant que nombre d'Africains vivant en France sont des contribuables, explique Rachida Kaout. La France n'est pas raciste, mais il faut changer les mentalités. Les Africains représentent un réservoir de compétences qui n'est pas utilisé à sa juste valeur, a indiqué Madame Kaout. L'organisation prévoit un premier sommet réunissant notamment les pays africains et les diasporas présentes en France d'ici la fin de l'année.
Le nouvel émissaire de l'ONU en Libye, le Sénégalais Abdoulaye Batili, a pris ses fonctions aujourd'hui à Tripoli, selon un communiqué de la mission onusienne dans ce pays nord-africain plongé dans le chaos sécuritaire et politique. Monsieur Batili, dont le poste est resté vacant depuis la démission de son prédécesseur, juge prioritaire de trouver une voie consensuelle qui mène à la tenue d'élections nationales inclusives et crédibles dès que possible et sur la base d'un cadre constitutionnel solide.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la commission parlementaire enquêtant sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 a cité l'ancien président à comparaître. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Donald Trump se pliera-t-il à la convocation? Il ne l'a pas dit dans sa première réaction à la nouvelle, mais il a dénoncé les élus soutenant que la commission est un fiasco total qui n'a servi qu'à diviser davantage les États-Unis. C'est ce qu'a écrit l'ancien président sur son réseau social Truth Social. Le panel a voté à l'unanimité pour l'assigner à comparaître. Le député Benny Thompson, président de la commission parlementaire.
Il est tenu de répondre à ces millions d'Américains dont il voulait rejeter les votes dans le cadre de son plan pour rester au pouvoir et de tout ce qui est en cours pour assurer cette redevabilité vis-à-vis de la loi. Ce comité exigera un compte rendu complet à chaque Américain de l'événement du 6 janvier.
La mission du panel, composée de 7 démocrates et de 2 républicains, est de faire la lumière sur le comportement de Donald Trump avant, pendant et après l'attaque du Capitole. Ce jour-là, le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien président ont pris d'assaut le siège du Congrès pour essayer d'empêcher les élus de certifier la victoire de son rival démocrate, Joe Biden. Trump continue de soutenir que le scrutin lui a été volé. Depuis sa création, la commission a interrogé plus d'un millier de témoins, dont deux enfants de Donald Trump, et épluché des dizaines de milliers de documents. Le rapport d'enquête doit être rendu public d'ici la fin de l'année.
Le tireur accusé d'avoir fait 5 morts jeudi dans une ville du sud-est des États-Unis est un adolescent de 15 ans, ont annoncé aujourd'hui les autorités locales, précisant qu'il était hospitalisé et dans un état critique. Il a tué 5 personnes, dont un officier de police qui n'était pas en service, à Raleigh, dans l'état de Caroline du Nord. Le tireur a ouvert le feu hier pour une raison pour l'instant inexpliquée, peu après 17 heures sur un sentier de promenade de cette ville de près de 500 000 habitants. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
2022 marque la multiplication des difficultés pour l'Afrique, prises dans les conséquences de la guerre en Ukraine et des multiples chocs qui viennent secouer l'économie mondiale. Après un rebond l'année dernière, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait ralentir en 2022 pour atteindre 3,6% et se maintenir à 3,7% en 2023, mais les perspectives à court terme sont extrêmement incertaines, souligne le FMI dans son rapport régional publié vendredi. Cette situation économique vient renforcer les difficultés rencontrées par le continent depuis l'irruption de la pandémie de COVID-19, même si les pays africains ont globalement plutôt moins souffert sur le plan sanitaire. L'Afrique a connu un bond inédit de la pauvreté, mais aussi de la détresse alimentaire. Le président américain Joe Biden a fait savoir jeudi qu'il prendrait la semaine prochaine des décisions sur le prix de l'essence. Son administration puise déjà depuis des mois dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis dans l'espoir de contenir les prix à la pompe. Ces derniers avaient baissé cet été. Mais les prix de l'essence remontent aux États-Unis après la décision la semaine dernière de l'OPEP Plus de réduire son offre.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Athlétisme, 2 nouvelles athlètes kenyanes suspendues par l'antidopage.
Oui, la marathonienne Diana Chemtai Kipyoke et sa compatriote Betty Wilson Lempus ont été suspendus provisoirement pour infraction au règlement antidopage. L'annonce a été faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Les deux athlètes sont accusés d'altération de preuves et d'obstruction à la procédure, à cause notamment de l'utilisation de faux documents, après avoir été contrôlées positives en 2021 à des substances dopantes. Depuis janvier, il leur est interdit de participer à des compétitions. Diana Chemtai Kipyoke avait remporté en octobre 2021 le marathon de Boston, l'un des 6 marathons majeurs. Betty Wilson Lempus avait gagné le semi-marathon de Paris en septembre 2021. Leur suspension intervient 3 jours après celle de leur compatriote Marc Kangogo, lui aussi contrôlé positif au dopage. Kipyoke et Lempus sont les 22e et 23e athlètes venant du Kenya suspendus en 2022.
Football, 4e journée hier de la Ligue Europa.
L'AS Rome a maintenu ses chances de qualification en allant faire match nul chez les Betis Séville, 1-1. Manchester United s'est imposé dans le temps additionnel contre le modeste Omania 1-0. En Norvège, sur le terrain de Bodø Glimt, Arsenal est allé conforter sa première place en s'imposant 1-0 également. La Real Sociedad s'est imposée à domicile contre le club moldave du shérif Tiraspol. Du Burkinabé, Cédric Badolo, battu 3-0, a signalé aussi les déconvenus des clubs français, Monaco contre Travanspor et Nantes contre Fribourg, tous battus 4-0.
Patrice Evra, jugé pour injure homophobe.
L'ancien capitaine de l'équipe de France de football encourt une amende pour des propos visant le PSG. Ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Patrice Evra s'était déchaîné sur les réseaux sociaux en mars 2019 après une victoire des Mancuniens contre le PSG en Ligue des Champions, invectivant l'ancien joueur parisien Jérôme Rotten, puis lançant notamment « Paris, vous êtes des PD, ici c'est les hommes qui parlent ». Patrice Evra avait ensuite posté un message pour s'excuser, assurant ne pas être homophobe. Les associations Mousse et Stop Homophobie, soutenues par le collectif anti-homophobie Rouge Direct, avaient déposé plainte. Evra a été inculpé pour injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, des assises nationales rassemblant quelques 300 personnes ont débuté ce vendredi pour nommer un président de transition deux semaines après un putsch apporté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Des centaines de partisans ont manifesté à Ouagadougou pour que le capitaine Traoré soit désigné président. Un membre de la junte au pouvoir, le capitaine Marcel Meda, a lu un message du capitaine Traoré absent à la cérémonie d'ouverture des assises. Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de nos diversités pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle pleine d'espoir, a-t-il dit. Yacouba Ouédraogo, agent à Ouagadougou, l'analyste politique PASIEN.
L'histoire récente du Burkina semble se répéter, c'est-à-dire depuis le 24 janvier, on a eu des événements qui ont conduit justement à des assises. Aujourd'hui, on a encore de nouvelles assises avec le même groupe de MPSR. Donc on est tenté de dire que l'histoire s'est répétée.
Qui sont ceux qui participent à ces assises-là?
Ce sont les forces vives de la nation, telles que c'est présenté. Donc ce sont les forces de défense et de sécurité dans les différentes composantes. Ce sont les organisations de la société civile, ce sont les syndicats, ce sont les organisations professionnelles. Ce sont les autorités coutumières et religieuses, ce sont des personnes de ressources et ce sont également des responsables administratifs des différents ministères. On est tenté de dire que c'est plus ou moins la configuration des assises suite aux événements du 24 janvier. C'est vrai qu'à cette fois-ci, il y a quelques personnalités qui sont ajoutées, notamment au niveau des organisations politiques, parce qu'on voit l'ex-majorité qui est fortement représentée, c'est-à-dire le parti de Blaise Compaoré, des partis qui étaient satellites autour. C'est plus ou moins la classe politique habituelle qui s'est réunie.
Que faut-il attendre de ces assises-là?
Essentiellement l'adoption de la charte de la transition et certainement la désignation du président de la transition. Ce qui fait actuellement un débat, vous savez, au lendemain de sa prise de pouvoir, le chef de l'État actuel avait annoncé qu'il ferait place donc à un président civil ou militaire qui serait désigné lors des assises. Les voix se sont levées au niveau du Burkina Faso pour dire qu'on souhaitait que ce soit le chef de l'État qui se maintienne.
Vous parlez du président du mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde.
Tout à fait, le président du MPSR. Donc beaucoup de voix se lèvent. Il y a eu des manifestations hier dans les grandes villes du Burkina Faso et même ce matin. Ouagadougou est bondé de monde qui se réunit pour dire qu'il faut que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré qui soit maintenu comme président de la transition.
C'est vrai, il y a le choix du président qui fait débat, mais est-ce que justement ce débat-là n'occulte pas le vrai problème du fond, les missions du futur gouvernement de transition?
La principale mission, c'est de lutter contre la sécurité, c'est de lutter contre le terrorisme. C'est ça la principale mission donc, de la transition, et aller à des élections pour qu'un nouveau président qui sera élu vienne avec un programme de développement. Ce qu'ils disent de façon très pratique, c'est qu'en réalité, l'ancien président Damiba faisait beaucoup plus de politique que de lutte contre le terrorisme. Et que c'est ce qu'eux, ils veulent rectifier à travers donc ce nouveau coup de force. Et il faut rappeler que c'est toujours le même mouvement, avec les mêmes acteurs qui étaient sur le terrain pour le putsch du 24 janvier. C'est plus ou moins les mêmes qui sont revenus en disant que le leader qu'ils avaient mis en avant ne faisait pas ce qu'eux voulaient. Et je pense qu'il a même annoncé qu'en 3 mois, ils pourront faire ce que le président Damiba aurait dû faire en 10 mois. Donc, la mission principale, c'est la lutte contre l'insécurité. S'il y a débat quelque part, c'est que peut-être il y a des groupes de pression, des lobbies qui voudraient peut-être imposer des éléments à l'intérieur. Il y en a qui voient cela comme un gâteau à partager, c'est l'erreur qu'ils commettent. Le véritable débat, c'est est-ce que le président du MPSR accepte de se maintenir à la tête de l'État ou bien il va maintenir sa position de départ qu'il avait dit, il voulait que ce soit un président qui sera désigné et il n'avait pas exclu en son temps que ça puisse être lui également. Mais il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit maintenu vu que la pression de la rue est assez forte actuellement.
C'était l'analyse politique burkinabé par Zien, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La mairie de Kinshasa en RDC a procédé la semaine dernière à la destruction des constructions anarchiques. Il s'agit de nombreuses maisons construites illégalement sur des terrains publics ou non viables et potentiellement dangereuses pour les habitants d'après les autorités. Et pour résoudre le problème des constructions anarchiques, le pays se dote d'un plan d'aménagement du territoire. Ce plan organise l'utilisation de l'espace commun. De Kinshasa, un reportage d'Alex Kati-Kataï.
Un bulldozer qui éventre une maison sous le regard impuissant des propriétaires. La scène se déroule à Sokopao, un quartier de Limété, au centre-est de Kinshasa. Ces maisons sont construites anarchiquement le long du chemin de fer sur le terrain de la société congolaise des transports et des ports. Georgine et Marcel viennent de perdre leur maison dans cette opération.
Nous n'occupons pas illégalement ce terrain. Nous avions eu l'ordre de l'OTAN et nous avons des documents qui le prouvent. Eux, le Conseil d'État avait vu ces documents et nous avait autorisé de nous regagner nos terrains. Mais là, nous sommes surpris.
Nous nous sommes réveillés un certain matin et nous avons vu des tracteurs venir démolir nos maisons. Nous passons la nuit dehors et parfois sous la pluie. Nous ne comprenons rien. On nous apprend que c'est le propriétaire du terrain, l'ONATRA, qui veut récupérer son terrain pour des travaux.
C'est la ville de Kinshasa qui a décidé de cette démolition. Les autorités veulent récupérer le terrain le long du rail pour l'aménagement d'un nouveau réseau ferré. C'est pour l'aide du projet Kokine qui doit relier plusieurs communes de Kinshasa. Jean-Tenin Ngobila, gouverneur de Kinshasa, explique les avantages de cette opération.
Nous avons un projet de réhabiliter ces réseaux avec notre projet Metrokine. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi pour donner certains éclaircissements. Le chemin de fer ici va se grandir. Il va passer d'une voie à deux voies. Alors c'est le projet Metrokine qui a déjà commencé son amorce. Les gens, notamment les gens du département, qui ont érigé des bicoques ici, tout autour du chemin de fer, seront relocalisés, envoyés dans la commune de Tselé, dans la localité de Tingitingi.
Les constructions anarchiques sont nombreuses à Kinshasa, le long des rivières, sur des terrains marécageux, sur des terrains d'intérêt public ou même dans des quartiers sans respecter les normes d'aménagement. La question préoccupe les autorités au niveau national et veulent la résoudre efficacement. Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, annonce la mise en place d'un plan national de l'aménagement du territoire.
Conformément à tous les engagements, vous savez, notre pays s'est engagé dans le processus, que ce soit pour la protection de la forêt, que ce soit d'autres engagements sur le plan international. Et donc ce guide-là, c'est un outil très très important pour les provinces, les ETD. On peut que s'en réjouir parce que de plus en plus, le processus qui avait commencé depuis 2015, est en train d'arriver à son terme et la gestion physique de notre espace territorial ne se fera plus n'importe comment. Ça va se faire de manière harmonieuse et de manière cohérente.
Les documents approuvés comprennent un schéma national avec des orientations méthodiques pour l'élaboration d'un programme de gestion des territoires régionaux et provinciaux. Une fois exécuté, ce plan pourrait réduire les drames dus aux constructions anarchiques. Alex Katikatai, Kinshasa, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
La Zambie accueille cette semaine un sommet économique de deux jours pour tenter d'attirer les investisseurs américains. En 2020, la Zambie est devenue le premier pays africain à ne pas pouvoir rembourser sa dette. Le gouvernement travaille sur un accord de restructuration de la dette avec le Fonds monétaire international et a promis de faire croître l'économie en difficulté. Le reportage de Cathy Short à Lusaka, en Zambie, un récit de John Lyndon.
Les responsables zambiens affirment vouloir diversifier l'économie pour qu'elle ne dépende plus des industries extractives comme le cuivre, qui représente la majeure partie des exportations du pays. Lors du premier sommet économique avec les États-Unis, mercredi à Lusaka, le ministre zambien du commerce Chipoka Mulenga a déclaré que les États-Unis devraient être un partenaire important.
Notre objectif est de voir comment nous pouvons créer des emplois et relancer notre économie en ajoutant de la valeur. Nous voulons profiter du nouveau système énergétique vers lequel le monde est en train de migrer, des combustibles fossiles vers les énergies propres. Et nous essayons de tirer parti des minéraux que nous possédons et d'amener un consortium d'acteurs développés qui disposent déjà de la technologie pour voir comment nous pouvons développer notre cuivre et passer de l'exportation de concentrés sous la forme brute au développement du produit fini pour le système d'énergie verte dans lequel nous voulons entrer.
La Zambie est le deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique avec la République démocratique du Congo et une source d'autres minéraux essentiels comme le manganèse, le nickel et le cobalt. Mais selon les économistes, la dépendance de la Zambie à l'égard des minéraux signifie qu'elle n'a pas tiré parti de son statut de membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, ou de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Boy Mulewa fait partie du groupe de réflexion Dialogue sur le commerce et les politiques en Zambie.
C'est l'un des défis que la Zambie n'a pas vraiment exploité malgré son appartenance à des organismes régionaux comme le COMESA et la SADC. Mais pour l'avenir, l'engagement avec les États-Unis est très important. Nous devons changer de discours parce que ce que nous avons vu dans le passé est que nous nous concentrons plus sur l'aide qui vient des États-Unis, soit environ 500 millions de dollars américains par an.
Les chiffres du gouvernement montrent que le commerce annuel et bilatéral entre la Zambie et les États-Unis n'était que de 182 millions de dollars en 2019. S'exprimant lors du sommet des entreprises mercredi, l'ambassadeur des États-Unis en Zambie, Michael Gonzalez, a déclaré qu'il voyait un grand potentiel dans l'économie du pays.
Les États-Unis sont prêts à s'associer à la Zambie pour faire en sorte que ces grands pays saisissent l'opportunité pour amorcer la renaissance zambienne. Ils vont le faire en s'appuyant sur les savoir-faire technologiques américains pour répondre à la demande croissante des TIC dans tous les secteurs, depuis les soins de santé jusqu'à l'industrie.
Le sommet économique Zambie-États-Unis de deux jours a attiré des centaines d'investisseurs locaux et américains dans des secteurs comme l'exploitation minière, la technologie et les soins de santé.
Le Fonds monétaire international a rendu public ce vendredi son rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Le FMI prévoit une baisse de la croissance sur le continent et une forte inflation qui a atteint 9%, provoquant une hausse des prix. Des perspectives économiques qui préoccupent le FMI, qui estime que la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires mettent sous pression les familles et les gouvernements. Le fonds appelle ces derniers à mieux cibler leur assistance sociale. Pour en parler, Abdourahmane Dia s'est entretenu avec Luc Hérault. Il est le chef de la division en charge des études régionales et il est l'un des auteurs du rapport.
En effet, la croissance avait vraiment repris très fortement en 2021. Après la crise du Covid, après la pandémie. Et en 2022, je dirais, la croissance a un peu... On s'attend à ce que la croissance ralentisse assez fortement. Et pourquoi est-ce qu'elle ralentit? Et je dirais, elle ralentit à cause de la conjonction de chocs mondiaux qui ont affecté la région Afrique. Et ces chocs mondiaux, d'abord, il y a le ralentissement de la croissance mondiale, ralentissement en Europe, ralentissement aux États-Unis, ralentissement en Chine, qui réduit évidemment la capacité des pays africains.
Dû à quoi ? La crise ukrainienne essentiellement ?
Dû essentiellement à la crise ukrainienne, en effet. Le deuxième chose, je dirais, c'est le resserrement des conditions financières internationales. Tous les pays sont exposés à une hausse des taux d'intérêt. Certains pays africains ont perdu même l'accès aux marchés financiers actuellement. Et enfin, le troisième choc que subit l'Afrique, tout le monde le sait bien, c'est la hausse des prix du produit alimentaire, la hausse des prix des produits importés, l'énergie, l'alimentation et les engrais.
Et justement, vous en parliez, les mesures prises à l'échelle internationale pour atténuer les effets de l'inflation en Afrique, est-ce qu'elles sont efficaces? Par exemple, aux États-Unis, en Europe, les banques centrales se focalisent beaucoup sur la hausse des taux d'intérêt, justement, pour faire face à l'inflation. Comment ces mesures affectent-elles l'Afrique?
Je dirais que tous les pays du monde sont rentrés dans un cycle maintenant de resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire que toutes les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en Afrique. On a à peu près deux tiers des pays africains qui ont déjà commencé à augmenter leurs taux d'intérêt et qui les ont augmentés, je dirais, depuis la deuxième moitié de l'année dernière.
Et pour ce qui est, disons, des mesures sociales pour accompagner cette inflation, cette augmentation des taux d'intérêt, est-ce que vous pensez que les pays africains sont là où ils doivent être, justement, pour favoriser cet accompagnement?
Je dirais que les pays africains sont présents là-dedans. On a fait une revue de toutes les mesures qui ont été prises. La plupart des pays africains prennent des mesures de soutien social pour les populations. Disons que ces mesures de soutien, dans la mesure où beaucoup de pays ont des systèmes de transferts sociaux qui sont, en développement, et c'est difficile de cibler exactement les populations les plus vulnérables en Afrique.
C'était Luc Hérault, chef de la division en charge des études régionales du FMI. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.